Ésaïe, chapitre 35, les versets 4 à 7. Ésaïe, chapitre 35, versets 4 à 7. Au nom de Jésus. Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous. Et n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'il vous en fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles se mettront à voir clair et les oreilles des sourds se mettront à entendre. Alors les boiteux bondiront comme les cerfs et les muets exprimeront leur joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisselleront dans le pays sec. Le sable brûlant se changera en étang, et le pays de la soif en région de source. À l'endroit même où les chacals avaient leur repère, pousseront des roseaux et des joncs. Amen. Il fut un certain temps, lorsque je me posais des questions sur la façon dont Dieu mène ma vie sur cette terre de misère et de malheur, comme on le dit. Et quand on ne reçoit pas toutes les explications attendues sur nos pourquoi, pourquoi. Alors quand je consultais les anciens, les grands frères dans la foi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors on me rabâchait à chaque fois le verset, Marc chapitre 5, verset 36, « N'aie pas peur, crois seulement. » Ça ne me suffisait pas. Crois seulement. Je détestais d'entendre ce verset parce que je le considérais comme un argument d'autorité que je subis pour me faire taire. En d'autres termes, tais-toi. Mais quand le temps avance, ces personnes qui me disaient cela avaient raison. Car je n'arriverai jamais à suivre la logique de Dieu. Dieu est illogique. Si je dis cela, c'est aussi ce qui s'est passé ici dans notre texte aujourd'hui pour ce dimanche. On n'arrive plus à suivre le raisonnement de l'Éternel si vous lisez le texte. Il annonce à son prophète que Dieu va se venger de son peuple qui a été maltraité par les oppresseurs. Jusque-là, ça nous convient. Mais attendez, est-ce que vous savez d'où viennent ces gens qui ont fait souffrir le peuple d'Israël ? C'est l'Éternel lui-même qui a annoncé qu'il va envoyer des nations pour corriger le peuple, pour punir le peuple à cause de sa désobéissance. Donc c'est bizarre, l'Éternel envoie des ennemis contre Israël et c'est lui après qui dit « Je vais me venger auprès de ces peuples. » Et quand son temps sera écoulé, Dieu va envoyer une autre nation pour les juger à leur tour. Et c'est cela que je disais tout à l'heure, je n'arrive plus à suivre parfois la logique de Dieu. Et ce n'est pas fini. Le prophète ici parle de rétribution. Et dans la pensée collective israélite, s'il t'arrive quelque chose de grave comme une maladie, avoir aussi des personnes nées aveugles dans la famille, un sourd, comme on vient de lire, un lépreux, forcément il y a quelqu'un quelque part dans la lignée familiale qui a fait quelque chose de mal. Peut-être que tu es maudit, certaines personnes le disent même. Il y a une malédiction. Les apôtres, ils avaient aussi ce même réflexe. Dès qu'ils ont vu cette personne née aveugle, qu'est-ce qu'ils disaient ? Maître, mais pourquoi cet homme est-il né aveugle ? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ? Jean chapitre 9, verset 2. Et quelle était la réponse de Jésus ? Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Au verset 3. Vous voyez? Les personnes soi-disant hommes de Dieu, comment ils réagissent? Tout de suite, il faut trouver un coupable. C'est ça notre réflexe. Il faut trouver un coupable pour apaiser la colère de Dieu. Nous sommes dans un monde qui va de plus en plus mal, c'est sûr. Je ne parle plus du climat, des actualités politiques très noires dans le monde. Mais au milieu de tout cela, l'homme souffre. Et nous ne pouvons même pas imaginer des souffrances que certaines vivent dans le silence. Il y a des gens qui souffrent dans le silence. Et face à cela, trois problématiques se posent dans la bouche des gens, selon une théologienne catholique qui s'appelle Marie-Noël Tabu, une théologienne qui disait sur une chaîne catholique Catéo. Première possibilité, disait-elle, quand on aborde quelqu'un, mais qu'est-ce que t'en penses sur ma situation? Souvent, les chrétiens répondent, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Tu es une pécheresse. Tu es un pécheur. Imaginez un peu une personne qui est déjà dans la détresse et qui vient vers toi, il fait appel à toi, soi-disant chrétien, et nous avons encore ce genre de discours. C'est Dieu qui te punit. Bam ! Sur la tête. Ça, c'est l'évangile. Et la personne repart tout triste. Deuxième possibilité. C'est révoltant. Il n'a pas mérité cela. C'est pas juste. Dieu est injuste. Troisième possibilité. Ne cherche pas à comprendre, petit. Il n'y a pas d'explication. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au tout début. J'avais difficile à me faire avaler cela quand on m'a balancé la même chose à la figure. Ne crains pas, crois seulement. Or, ce qui est en train de se passer dans ma vie me fait crier vers le ciel, « Seigneur, où es-tu ?» Alors face aux faibles qui trébuchent, ceux qui ont le cœur qui palpite, ceux qui sont aveugles, sourds et impurs, l'Éternel annonce une vengeance, comme on dit ici dans le texte. Une vengeance dans le sens de réparation. C'est d'ailleurs la philosophie de la fameuse loi de talion, œil pour œil, dent pour dent, qui est écrit aussi dans le livre de l'Exode. C'est la loi qui réclame une réparation à la personne qui a été victime d'une maltraitance ou de violence. Ce n'est pas une violence en réponse de la violence, c'est la réparation. Pour être encore plus précis, ce que l'Éternel annonce, c'est une double réparation. La maladie qui est déjà là, qui fait ses ravages, mais aussi l'injustice qu'ils subissent à cause de cette maladie qui devient pesante, et cette maladie qui devient un index qui nous montre du doigt que vous êtes les pires pécheurs du monde. Voilà ce que les gens subissent. En plus du problème qu'ils ont, il y a la société, les chrétiens, les frères et sœurs en Christ, qui montrent encore du doigt que tu es un pécheur. Et ça, c'est injuste. Alors Dieu annonce une réparation. Et quand nous voyons la liste de la promesse du prophète ici dans le texte, cela nous renvoie tout de suite aux œuvres du Christ pendant son ministère. Et cette prophétie sert alors pour moi de lumière sur le sens des miracles réalisés par le Christ. Si nous ne lisons pas Ésaïe avant de lire les évangiles sur les récits des miracles, nous ne comprendrons jamais ce que ça veut dire. Et c'est capital parce que si nous ne comprenons pas la finalité des guérisons faites par Jésus dans les évangiles, nous resterons que dans la compréhension au premier degré de ces miracles. Et c'est dommage. Parce que ce n'est pas le but. Et là où je veux en venir est que si nous ne focalisons que sur l'admiration de ces miracles faits par Jésus, cela ne nous avance pas plus loin. C'est bien de louer que le Seigneur fait des miracles, mais si ça ne s'arrête que là, nous ratons vraiment le sens de ses actions. Nous ne ferons que rejoindre la foule qui voyait ces miracles en train de louer le Seigneur, que jamais il n'y avait aucun prophète dans Israël qui a fait pareil, c'est tout. Mais quel est le message derrière ces choses extraordinaires, derrière ces choses magnifiques? C'est la volonté de Dieu de sauver l'homme de l'emprise de la maladie, bien sûr, mais ce qui est le plus important, c'est le message véhiculé sous-jacente que tu n'es pas maudit, comme la société le croit, comme certaines personnes le croient. Tu n'es pas sous la colère de Dieu, comme beaucoup le pensent et le jugent même, sans le dire, mais dans son cœur. Jésus avait bien mis cet accent-là à travers l'histoire. Rappelez-vous l'histoire du paralytique de Capharnaüm. Il y avait un malade paralytique que ses amis avaient fait descendre du toit parce qu'il y avait du monde dans la pièce où se trouvait Jésus. La première chose que Jésus a fait en voyant le malade, il lui a annoncé envers lui, tes péchés sont pardonnés. Ce que le malade avait espéré entendre, soit guéri. Or, le Christ a dit, tes péchés sont pardonnés. Étonnant. Et ce n'est qu'après qu'il a donné l'ordre de se lever, lève-toi et marche. Ça a une signification. Quand il y avait le reproche derrière tout cela, c'est que Jésus, lui, il sait qui est derrière la mentalité des gens. Il est le seul à pouvoir pardonner. Dieu a cette seule prérogative. Écoutons bien ce que Jésus leur avait répondu. Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Ils n'avaient pas de réponse. Jésus n'avait pas besoin de guérir ce malade pour prouver qu'il avait l'autorité de pardonner, mais il l'a fait en même temps avec la guérison pour en service de support pour ces pharisiens qui avaient toujours fait un lien entre le péché et la maladie. Voilà le but. Ces pharisiens fonctionnaient comme cela. Si tu es malade, c'est que tu as péché. C'est que tu es né aveugle, c'est que tu es maudit. Alors Jésus a dit, alors si vous suivez cette logique, je dis, tes péchés sont pardonnés et lève-toi, marche. Jésus ne partageait pas du tout ce point de vue, mais il l'a fait pour montrer aux pharisiens son autorité à pardonner. Mais en même temps, Jésus bouscule les normes, comme de son époque, pensant que la grâce divine ne peut pas surpasser la malédiction. Et cette logique-là, encore certains chrétiens le pensent. Si tu es encore dans le péché, Dieu ne peut pas répondre à tes prières. Quand tu ôtes les péchés, ce n'est qu'après que Dieu écoute tes prières. Alors là, je vous dis, on est mal barré. Non, Dieu donne sans demander à l'homme d'enlever ce qui pourrait l'empêcher de recevoir cette grâce. Et c'est là que je dis que la grâce, c'est la grâce qui détruit le mur du péché. Cette grâce qui est au-dessus de notre imperfection. Une grâce qui n'est pas conditionnée par l'homme. La grâce donne d'abord. La grâce détruit nos murs. Et ce n'est qu'après que nous pouvons venir vers Dieu. Même le réflexe de prier, même le réflexe de venir au temple, même le réflexe de prendre sa Bible et de la lire chez toi, ça ne vient pas de toi. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné cette force. Je suis toujours et je resterai toujours effaré d'entendre que si tu ne fais pas d'efforts et que tu ne te libères pas de tes péchés, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Ce n'est pas ça le Jésus que je connais. Mais quel genre d'évangile est-ce? C'est que je vois dans les évangiles, c'est après que Jésus ait fait des grandes choses que là, la personne s'agenouillait devant lui, comme Pierre l'avait fait. Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pauvre pécheur. Jésus n'avait même pas besoin de lui dire, tu es ceci, tu as fait cela, voilà ton CV, voilà ton historique, ton passé est lourd, tu as des casseroles, ceci. Et cela, pardonne-moi Seigneur. Non, il lui a donné les poissons qu'il avait besoin, et là il a dit, Seigneur, je suis un pécheur. Vous voyez, c'est la grâce qui fait, qui rend les gens à genoux devant le Seigneur. C'est l'amour qui détruit l'orgueil, et non le jugement et la condamnation. C'est la grâce de Dieu qui nous met à chaos par terre. C'est cette grâce de Dieu qui a fait tomber Paul de son cheval. Et de là, il est devenu aveugle. Il est devenu comme un enfant nouveau-né. Il avait besoin de quelqu'un. Et là, Ananias lui a rendu la vue. Et de là, il a dit, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.